Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Je peux dire en stricte vérité que les demi-heures les plus heureuses que j'ai vécues ont été celles où tout d'un coup, assis seul dans mon cabinet de travail, j'ai éclaté en larmes. Cette brève confession de Samuel Taylor Coleridge est le reflet de la sensibilité préromantique qui parcourt l'Angleterre et l'Allemagne dans les dernières années du XVIIIe siècle. Pour ce qui est des écrivains anglais, l'histoire littéraire les nomme les « lakeistes ». Le mot, formé à partir de l'anglais « lake », le lac, désigne les poètes qui ont vanté les comtés de Cumberland et de Westmoreland au nord-ouest de l'Angleterre. À vrai dire, Coleridge est né à Ottery St. Mary, au sud-ouest de l'Angleterre, ce pays où l'Atlantique et la Severn font belle rumeur et fortifiante odeur sous les cieux libres en la plus clémente saison. C'est Valérie Larbeau qui parle ainsi dans la courte notice dont il fit précéder en 1911 sa traduction de « The Rime of the Ancient Mariner ». Et il poursuit « Je connaissais le vieux marin longtemps avant d'avoir visité cette région et lorsque je vis pour la première fois le golfe de Bristol avec ses baies, ses falaises et ses deux holmes aux formes étranges, je reconnus aussitôt le pays de la chanson du vieux marin. » Les trois poètes les plus célèbres qui appartiennent au mouvement des lakeistes sont Coleridge, William Wordsworth et Robert Southey. C'est la prestigieuse maison d'édition José Corti qui publie trois textes majeurs de Coleridge, Le Dit du vieux marin, Christabel et Kubla Khan. On peut au passage saluer la mémoire de José Corti, mort à 89 ans en 1984, dont l'activité éditoriale s'est exercée selon trois axes principaux. Des textes clandestins pendant l'occupation allemande, des auteurs peu connus du domaine anglais comme Anne Radcliffe ou Horace Walpole, et l'œuvre de Julien Gracq. C'est dans la traduction de Henri Parizeau qu'on lira des extraits des trois œuvres de Coleridge précitées. Le préfacier de cette même édition, Pascal Acquien, affirme, je le cite, « Ces trois poèmes, pour disparates qu'ils soient, et au regard de la forme, voire de l'achèvement, de Christabel, Coleridge n'a écrit que deux parties sur cinq initialement prévues. Quant à Kubla Khan, il le considérait comme un fragment, alors que le vieux marin, lui, est un poème achevé. Et au regard de la thématique et de l'atmosphère, ces trois poèmes, donc, ont cependant de proches rapports de fond. Poèmes démoniques, pour reprendre la terminologie de Harold Bloom, ces trois textes sont marqués par le thème de la possession et mettent tous trois en scène un rapport de fascination où le regard joue un rôle fondamental. Cette fascination est celle qu'éprouve l'invité de la noce pour le marin, c'est celle de Christabel pour Géraldine, celle enfin du poète écrivant pour l'image idéale du poète triomphant dans Kubla Khan. The Rime of the Ancient Mariner adopte la forme répandue à cette époque de la ballade. Le texte propose sept parties, chacune constituée de quatrains, dont les vers 2 et 4 riment. Par exemple, cette strophe en anglais, « The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. » À l'évidence, la traduction française ne pourra restituer, comme on le verra, cette musicalité. De surcroît, il y a une autre particularité. Le poète, dans la marge, scande son texte de commentaires explicatifs. Trois voix se font entendre et se répondent, celle du vieux marin, celle du narrateur et celle de l'invité à la noce à qui le marin s'adresse. Dans les extraits en langue anglaise, que l'on va faire entendre dans un instant, ce seront les voix de Richard Burton, qui incarnera le marin, John Neville, qui incarnera le narrateur, et Robert Hardy, qui incarnera l'invité à la noce.
It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three.
By thy long grey beard and glittering eye, now wherefore stopp'st thou me? The bridegroom's doors are open wide, and I am next of kin. The guests are met, the feast is set, mayst hear the merry din.
He holds him with his skinny hand.
There was a ship,
quoth he.
Hold off, unhand me, greybeard loon.
Eftsoon his hand dropped he. He holds him with his glittering eye. The wedding guest stood still, and listens like a 3 years child. The mariner hath his will. The wedding guest sat on a stone. He cannot choose but hear. And thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner.
The ship was cheered, the harbour cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. Higher and higher every day, till over the mast at noon.
The wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. The bride hath paced into the hall, red as a rose is she. Nodding their heads before her goes the merry minstrelsy. The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear. And thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner.
And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. He struck with his oar, taking wings, and chased us south along. With sloping masts and dipping prows, who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward aye we fled. And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold. And ice mast high came floating by, as green as emerald. And through the drifts the snowy clifts did send a dismal sheen, nor shapes of men nor beasts we ken. The ice was all between. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swound. At length did cross an albatross. Thorough the fog it came. As if it had been a Christian soul, we hailed it in God's name. It ate the food it ne'er had ate, and round it flew. The ice did split with a thunder fit, the helmsman steered us through. A good south wind sprung up behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariner's hollow. In mist or cloud, on mast or shroud, it perched for vespers nine, whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine.
God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus. Why look'st thou so?
With my crossbow I shot the albatross.
On aura perçu, je pense, la musicalité du texte que, encore une fois, la traduction française, que ce soit celle de Valérie Larbaud ou celle d'Henri Parisot, que ces traductions françaises donc ne peuvent restituer, ne peuvent rendre. On aura entendu précisément la totalité de la première partie du poème. Le poème est précédé d'un court argument, c'est ainsi que le nomme Coleridge, avec une première édition en 1978 et une seconde édition en 1800 qui comporte d'importantes variations. Voici l'argument tel qu'il est énoncé en 1798. Comment un navire, après avoir passé la ligne, fut drossé par les tempêtes vers les régions froides voisines du pôle sud. De là, comment il fit route vers les latitudes tropicales du grand océan Pacifique, et des étranges choses qui advinrent, et de quelle manière le vieux marin regagna son pays. Et voici l'argument assez différent de l'édition de 1800. Comment un navire, ayant d'abord fait voile vers l'équateur, fut drossé par les tempêtes vers les régions froides voisines du pôle sud, comment le vieux marin, par pure cruauté et au mépris des lois de l'hospitalité, tua un oiseau de mer et comment il encourut maintes justices étranges et de quelle manière il regagna son pays. La polyphonie narrative déjà évoquée orchestre la confession que le vieux marin adresse à l'invité d'une noce et s'ajoute à cela l'instance d'un narrateur qui scande la dramatisation du dialogue, tant dans le corps du poème que dans ses marges. Après que le marin a abattu sans raison apparente un albatros, c'était le dernier vers du fragment qui a été récité en anglais, donc après que le marin a abattu sans raison apparente un albatros, la dépouille de l'oiseau sera suspendue à son cou et une malédiction s'abattra sur le navire et son équipage. Le navire sera saisi d'immobilité et l'équipage en proie à la torture de la soif. Je vais lire le passage au cours duquel une barque fantôme accoste le navire déjà maudit. Il faut toutefois souligner la nécessité de lire l'intégralité du poème d'une seule traite. Mais voici l'extrait que j'en lis. Voyez, voyez, criai-je, elles ne virent plus. Elles piquent sur nous pour nous porter secours. Sans nul souffle du vent, sans nul flux de la mer, elles piquent sur nous droit, la quille d'aplomb. Les flots vers l'horizon d'Occident flamboyaient. Le jour était tout près de toucher à son terme. Juste au-dessus des flots, là-bas, à l'Occident, reposait l'énorme soleil étincelant, quand soudain, cette étrange forme dériva entre le navire et le soleil. Et l'astre, au même instant de barre, fut strié. Que la mer céleste nous protège, comme s'il nous eût regardé à travers une grille de prison avec sa large face brûlante. Hélas, pensais-je, et mon cœur battait lourdement. Comme elle approche vite, vite, est-ce là sa voilure qui luit au soleil, telle de tremblants fils de la Vierge? Est-ce à travers sa membrane que le soleil montre sa face comme à travers une grille? N'a-t-elle pour équipage que cette femme? Cela, est-ce une mort? Y en aurait-il deux? De celle-ci, la mort serait-elle compagne? Ses lèvres étaient rouges, hardis ses regards, ses cheveux bouclés, jaunes comme l'or. Sa peau était blanche comme la lèpre. C'était le cauchemar nommé vie en la mort qui, dans ses veines, fait figer le sang de l'homme. La carcasse s'en vint ranger notre navire. Toutes deux étaient en train de jouer au dé. « La partie est finie, ah, ah, j'ai gagné !» clame la femme spectre, et trois fois elle siffle. Du soleil, le disque s'abîme, les étoiles dans le ciel se ruent, arrivent d'un bond le soir, avec un persistant murmure, sur la mer, disparut la barque fantôme. Nous écoutions et nous regardions, éperdus. L'épouvante à mon cœur, ainsi qu'à une coupe, semblait boire mon sang à petites gorgées. Les étoiles pâlirent, La nuit s'épaissit, le visage du timonier, à la lueur de sa lampe, brillait, livide. La rosée commença de s'égoutter des voiles, jusqu'à ce que montât sur l'horizon, à l'est, le croissant de la lune, avec une seule étoile claire au creux de sa corne inférieure. L'un après l'autre, sous cette lune escortée d'une étoile, sans avoir le temps de gémir ou de soupirer, chacun d'eux vers moi tourna son visage, empreint d'une abominable angoisse, et d'un seul regard me maudit. Quatre fois, 50 hommes, jusqu'alors vivants. Je n'entendis ni soupir, ni gémissement. Lourdement, avec un bruit sourd, masses sans vie s'écroulèrent, l'un après l'autre, abandonnant leurs corps, leurs âmes s'envolèrent vers le bonheur ou la géhenne, et en partant, chaque âme près de moi passa, pareil au sifflement d'un carreau d'arbalète. Par la suite, la force visionnaire du poème fera se redresser l'équipage, pourtant déjà mort. Je lis à présent un extrait de la cinquième partie. C'est la voix du marin que l'on entend. Et bientôt, j'entendis le vent qui mugissait. Mais de nous, tout d'abord, ce vent n'approcha pas. Ce fut son bruit seul qui agita nos voiles tellement minces et desséchées. Et l'air supérieur soudain se mit à vivre, et 100 drapeaux de feu brillèrent, flottant et roulant en tous sens. Et ça et là, et en tous sens, dansaient entre les flammes les étoiles blêmes. Et le vent, s'approchant, mugit plus fort encore, et ainsi que des joncs soupirèrent les voiles. Une onde ruissela d'un seul nuage noir, au bord duquel brillait la lune. L'épais nuage noir se fendit, et toujours la lune à son côté brillait. Telles des eaux de quelque haut rocher lancé, sans interruption, les éclairs se suivaient en un fleuve de feu torrentueux et large. Et le grand vent jamais n'atteignit le navire. Désormais, néanmoins, le navire avançait. Aux lueurs des éclairs et au clair de la lune, les hommes morts poussèrent un gémissement. Ils gémirent, frémirent, et tous se levèrent, sans proférer un mot, hagard, le regard fixe. C'eût été même en rêve un étrange spectacle de voir ces hommes morts ensemble se lever. La main du timonier saisit le gouvernail. Le navire avançait. Cependant, nulle brise ne le poussait. Chacun des matelots se mit à manœuvrer, tous à leur poste accoutumé. Tels des outils, sans vie, ils soulevaient leurs membres. Eux et moi, quel horrible équipage nous fîmes. Le corps de mon neveu, oui, du fils de mon frère, se tenait près de moi, nos genoux se touchaient. Le corps et moi tirions dessus le même câble. Mais lui ne me dit pas un mot. De toi j'ai peur, vieux matelot. Tu peux te rassurer, ô invité des noces, ce n'étaient pas les âmes en peine, parties, qui dans ces corps étaient au logis revenues, mais un radieux vol de célestes esprits. Car, à l'aurore, laissant retomber leurs bras, autour du mât tous les matelots se groupèrent. De doux sons, lentement par leurs lèvres passèrent et quittèrent leur corps. Autour d'eux quelque temps, chaque son voltigea, puis, comme un trait, il s'élança vers le soleil. Ensuite, lentement, tous ces doux sons revinrent, confondus quelquefois, quelquefois un à un, tantôt du ciel tombant en claires gouttelettes, de l'alouette, je croyais, ouïr le chant. Tantôt tous les petits oiseaux de la nature semblaient vraiment remplir et les airs et la mer des accents de leur suave gazouillement. Et quelquefois, c'était comme un orchestre entier, et quelquefois, c'était comme une flûte seule. Et maintenant, voici que c'est le chant d'un ange qui réduit au silence les cieux attentifs. Je voudrais pour terminer lire le poème assez court intitulé Kubla Khan. En Xanadu, donc, Kubla Khan se fit édifier un fastueux palais, là où le fleuve Alphée, aux eaux sacrées, allait par de sombres abîmes à l'homme insondable se précipiter dans une mer sans soleil. Plus de 20 000 hectares de fertile terre furent ainsi de tours et de hauts murs enclos, et c'était, irisé de sinueux ruisseaux, des jardins où croissait l'arbre porteur d'encens. Et c'était des forêts de l'âge des collines, de verdure encerclant les taches du soleil. Voyez ce romantique et profond gouffre, ouvert, au flanc du vert coteau, sous l'ombrage des cèdres, lieu sauvage, le plus riche en enchantement, qui jamais sous la lune en déclin fut hanté par femme, lamentant pour le démon qu'elle aime. Et de ce gouffre, avec un bouillonnant tumulte, comme si lourdement la terre haletait, par instant jaillissait puissante une fontaine, et dans l'explosion du flot intermittent, d'énormes rocs sautaient, rebondissantes grêles, tel le grain sous les coups du fléau du batteur. Et, parmi l'incessant fracas des rocs dansants, par instant jaillissait la rivière sacrée. Sur 5 000 traçant de fantasques méandres, à travers bois et val, se lançait l'eau sacrée qui, gagnant les abîmes à l'homme insondable, en tumulte sombrait vers un océan mort. Et Kubla entendit au loin dans ce tumulte de ses aïeux les voix prophétisant la guerre. Du palais de plaisance, l'ombre au milieu du courant sur les vagues flottait, là où l'on entendait les rumeurs confondues de la fontaine et des abîmes. Oui, c'était un miracle d'un rare dessin, ce palais au soleil sur l'abîme glacé. La demoiselle au tympanon, en songe, une fois m'apparut. C'était une vierge abyssine qui, de son tympanon, jouait en chantant le mont Abora. Si, en moi, je pouvais revivre sa symphonie et sa chanson, je serais ravi en délices si profondes qu'avec musique grave et longue, certes, je bâtirais dans les airs ce palais au soleil, ces abîmes de glace. Alors, tous ceux qui entendraient là les verraient, et tous de s'écrier « Arrière, arrière, arrière !» Ses yeux étincelants, ses longs cheveux flottants, 3 fois. Tissez un cercle autour de celui-ci, fermez les yeux, frappez d'une terreur sacrée. Car il s'est nourri de mielé et il a bu le lait de paradis. au cours de cette émission, vous avez pu entendre, en dehors de la prestation de Richard Burton et de deux autres comédiens, trois préludes de Wagner. Tout d'abord, le prélude, enfin une partie du prélude de Tristan et Iseult. Ensuite, le prélude de Tannhauser. Et enfin, une partie du prélude de Siegfried. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.